Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
1er novembre 1960, 1er novembre 2022, l'armée a 62 ans. Aujourd'hui, dans cette édition, le capitaine à la retraite Passoum Bagayan de la classe 1953 nous revient sur ses souvenirs. Et puis, au-delà de nos frontières, lutte contre l'insécurité au Mali, des témoins reprochent à l'armée et au groupe Wagner d'être responsables de la mort de plus d'une dizaine de personnes, rapporte RFI. Comme invité, nous recevons l'expert en initiative locale de sécurité, Sanoussa Gansonri. Avec lui, nous parlons de la fête de l'armée qui coïncide avec le recrutement massif de VDP. Interview à suivre en fin de journal. Voici pour les titres. Bonjour et bienvenue. L'armée burkinabé a 62 ans aujourd'hui. Créée le 1er novembre 1960, elle est née des cendres de l'armée coloniale française. Et pour ce 102e anniversaire, Omega Media vous amène à la découverte d'un ancien soldat qui s'est donné corps et âme pour sa patrie. Il s'agit du capitaine à la retraite, Passoum Bagayan. Il est de la classe 1953 et a été admis à la retraite depuis 1983, après 30 ans de service. Soumenan Traoré et Benabé Kabré sont allés à la rencontre de cet ancien militaire âgé aujourd'hui de 91 ans.
Passoum Bagayan est né vers 1931 à Yougoulmandé, non loin de Zorgo. Aujourd'hui âgé de 91 ans, ce capitaine à la retraite s'attendait à tout, sauf à une carrière dans l'armée.
J'étais enseignant à Zignaré. On nous payait 5000 francs par mois. J'ai trouvé que le salaire était petit. J'ai fait une demande à la banque. La banque m'a refusé. Je suis parti à la FAO. Et là-bas, je me suis présenté comme comptable. Et j'ai réussi.
La FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, qui avait une représentation à Ouagadougou. Là-bas, Passoum Bagayan occupe le poste de chef comptable. Nous sommes en 1953. C'est en allant réclamer une dette au Kangyo-Mouedraogo que sa carrière va prendre une autre tournure.
Quand je suis parti au Kangyom, j'ai trouvé le colonel Montoro. Il était sergent-chef à l'époque. Il m'a dit, ah, c'est notre comptable qui est venu. Ah, bon, ben, on va te recruter. J'ai dit, non, je suis comptable à la FAO. J'ai dit, non, on va te recruter. Et c'était la guerre d'Indochine.
Au Kangyom, Passoum Bagayan devient soldat de deuxième classe et travaille comme secrétaire comptable. Mais l'envie d'aller au front se fait de plus en plus sentir. Pour porter l'arme, il faut obligatoirement aller faire ce qu'on appelait à l'époque le peloton. Et cela se fait hors du pays. Notre soldat embarque pour la France.
On s'est embarqué avec le bateau Mermoz à Abidjan. Au lieu de nous descendre à Marseille, on dit la guerre d'Indochine est finie. Vous allez repartir en Algérie. Et Mermoz a navigué encore pour nous amener à Alger.
La guerre d'Algérie, des moments que Passoum Bagayan se remémore toujours.
Mais l'Algérie, c'était la guerre, puisqu'ils venaient l'indépendance. Et c'était leur droit. Ça fait deux fois que j'ai fait le, premièrement Constantine. Mon second, j'ai fait Bonne. J'étais chef de section et on m'a envoyé dans un poste Djigba. Et il fallait veiller la nuit, il fallait veiller la journée. On était toujours aux aguets.
De retour d'Algérie, le capitaine va servir dans plusieurs garnisons du pays.
J'ai fait Douri, j'ai commandé la compagnie de quartier général. J'ai commandé la sous-préfecture de Lyon avec commandant Zungrana, un gendarme. Quand je suis rentré, on m'a affecté à Pau, au centre d'instruction. Et quand j'ai fini ça, on m'a affecté à l'état-major, au premier RIC, avec le colonel Ousmane.
Issu de l'armée coloniale française, Passoum Bagayan a assisté à la création de l'armée voltaïque qui fête ce 1er novembre son 61e anniversaire.
Au moment de prendre l'indépendance, que les premiers officiers, on les a rappelés. Le général Lamizana était le premier. Il était capitaine et il commandait à l'état-major d'abord. Babassi était le deuxième. Vodro était le troisième. Ça a été créé comme ça, avec les premiers officiers d'abord. Bon, il fallait d'abord des fantassins, il fallait des comptables, il fallait faire le choix pendant jeune.
À la retraite depuis 1983, l'homme est aujourd'hui témoin de l'une des pages les plus sombres que son pays vit, confronté à une lutte très difficile contre le terrorisme.
Il faudrait que tous les Burkinabés se donnent à l'arme pour défendre les intérêts de ce pays. Et quand il y aura la paix, mais chacun pourra varier ce qu'il peut. Parce que tant il n'y a pas la paix, personne ne peut plus. Rien. Et c'est ça le problème. C'est question de mettre la main sur l'ennemi. Mais comment mettre la main sur l'ennemi? Invisible.
Passoum Bagagna, père de 12 enfants, plusieurs petits-fils et arrière-petits-fils, a reçu plusieurs distinctions. La médaille de l'ordre du mérite voltaïque, l'ordre du mérite burkinabé, l'ordre du mérite de l'Union des combattants français. Il vit d'une retraite paisible depuis 39 ans.
Et nous parlons en culture, droit des associations au Burkina Faso. C'est le titre du premier ouvrage de Aristide Berry, docteur en droit public, et Tidiane Kabori, inspecteur des impôts. L'œuvre aborde le management et la gestion fiscale des associations au Burkina Faso. La cérémonie de dédicace de l'œuvre a eu lieu samedi dernier à Ouagadougou. Jean-Paul Ouédraogo.
Le docteur Aristide Berry a participé à la rédaction de plusieurs textes de loi en matière de liberté publique et d'association. L'ouvrage aborde deux parties. Une première partie consacrée aux droits processuels et matériels des associations au Burkina Faso.
Nous deux, nous sommes partis d'un constat. Le constat d'une faible capacitation et d'une faible professionnalisation des acteurs de la société civile et qui sont incarnés principalement par les associations dans une double dimension. La dimension processuelle et matérielle, c'est-à-dire comment on monte et comment on manage une association et comment surtout on assure une gestion fiscale saine du monde associatif. Sur la base de ces deux considérations, l'ouvrage a été donc édité dans le sens justement d'une meilleure capacitation et d'une meilleure diffusion du droit des associations, aussi bien d'un point de vue, j'allais dire, politique et fiscal.
Quant à la deuxième partie, elle est consacrée uniquement à la fiscalité associative, rédigée par le co-auteur Tidiane Kabori, directeur des moyennes entreprises des impôts du Centre 1.
Moi, je me suis occupé personnellement de la deuxième partie de l'ouvrage qui traite particulièrement de la fiscalité applicable aux associations, aux fondations, aux ONG au Burkina Faso. Voilà. Il faut noter qu'au Burkina Faso, il n'y a pas un régime fiscal, c'est-à-dire une fiscalité spécifique dédiée en fait aux associations. C'est la fiscalité de droit commun qui est applicable en fait aux sociétés commerciales qui fonctionnent, qui est en vigueur. Sauf que il y a des particularités. La TVA en abrégé, en fait, est supportée par les ONG, mais remboursé. L'immatriculation, désormais, les associations, les ONG ont l'obligation de se faire immatriculer à ce qu'on appelle couramment chez nous, en matière fiscale, le numéro UFU. Ce sont des organismes, en fait, qui sont à but non lucratif, qui ne payent pas d'impôts sur les bénéfices, mais elles ont des obligations fiscales. Quand elles ont des employés en leur sein, il y a l'impôt sur les salaires qu'elles doivent reverser.
Cette œuvre d'environ 200 pages a été éditée par l'édition Mercury et est disponible en son sein au prix de 10 000 francs CFA. La version numérique est également disponible. Tous les moyens sont mis en œuvre afin de vous la faire livrer sur toute l'étendue du territoire burkinabé et même hors de nos frontières.
Santé à présent, et nous parlons d'un sujet qui touche beaucoup l'autre moitié du ciel. Il s'agit des menstrues. Bien qu'il soit un phénomène naturel, le sujet reste pourtant en tabou. Dans le reportage que vous allez suivre, Marina Traoré nous parle des règles douloureuses.
Ça paralyse mes pieds, à partir de mes reins jusqu'aux pieds. Ça me bloque, je ne peux plus rien faire.
Ça fait hyper mal. Je ne connais pas la douleur de l'accouchement, mais sincèrement, ça fait très mal.
C'est souvent des douleurs assez vives qui viennent avec des diarrhées aussi, le plus souvent.
Raïssa Traoré, Leila Toussawadogo et Latifa Tiendribiogo souffrent toutes les trois de règles douloureuses, encore appelées dysménorrhées. Des douleurs intenses ressenties chaque mois au moment des règles, au point que certaines ont même du mal à vaquer sereinement à leurs occupations lors de leur période menstruelle. C'est le cas de Leila Toussawadogo, une étudiante de 22 ans.
Quand ça commence comme ça, je ne peux plus aller à l'école, à la maison également. Si j'avais quelque chose à faire et que ça commence, je suis obligée de rentrer me coucher.
Pour soulager la douleur, Leïla Toussawadogo et Raïssa Traoré disent être allés à plusieurs reprises en consultation et pris différents médicaments, mais sans satisfaction.
Je suis passée par toutes ces étapes, injections, médicaments, tout. Injections, là même, ça ne me fait absolument rien.
La douleur était tellement atroce que les calmants n'avaient aucun effet. Donc ça fait que j'ai arrêté de prendre les calmants. Quand ça venait, je ne fais que pleurer. Bon, c'était les pleurs qui étaient mon calmant. Donc je pleure et puis après ça passe.
N'ayant pas eu de solution du côté de la médecine moderne, c'est finalement vers la médecine traditionnelle que Leïla Toussawadogo s'est tournée.
Les médicaments traditionnels m'ont beaucoup aidée. Ce sont ces médicaments-là qui sont arrivés à me soulager un peu. Sinon, à l'hôpital, non.
Même si elle dit être soulagée, les médecins conseillent de faire attention à certaines décoctions. En cas de règles douloureuses, la meilleure attitude à adopter, c'est de consulter un gynécologue car des douleurs menstruelles peuvent être le signe avant-coureur d'un problème plus grave. Docteur Alimata Traoré, médecin généraliste.
On conseille aux mamans d'amener généralement les jeunes filles qui voient leur première règle en consultation. Maintenant, pour les femmes qui souffrent de dysménorrhée secondaire, généralement, il y a des causes qu'on arrive à distinguer. La cause la plus fréquente des dysménorrhées secondaires, c'est l'endométriose.
Farid Aboli, secrétaire comptable, et Raïssa Traoré, étudiante, affirment avoir été délivrées de ces douleurs atroces après leur accouchement.
Depuis que j'ai accouché, bon, ça va. Bon, ça fait plus du tout mal.
Après mon accouchement, actuellement, mes règles viennent, je n'ai aucun mal. Mais avant, lorsque mes règles devaient venir, je ressentais cela une semaine avant.
Selon Dr Traoré, pour l'heure, il est difficile d'expliquer cela.
On n'a pas d'explication sur ce phénomène. Voilà, c'est juste un constat qu'on fait.
Il faut noter cependant que les femmes ne sont pas toutes égales face aux règles. L'intensité des douleurs et les symptômes varient d'une femme à une autre.
Hors de nos frontières au Mali, au moins 13 civils ont été tués dimanche dans la région de Mopti dans une descente d'hommes armés, selon des témoignages cités par RFI. Selon ces témoins, l'armée et les troupes russes de Wagner seraient responsables de cette tuerie. Deux sources militaires maliennes rejettent catégoriquement ces accusations. « Nous sommes une armée républicaine qui respecte les droits de l'homme », martèle un officier supérieur de l'armée de terre, cité toujours par RFI. Au Brésil, avec 50,9% des voix, Lula, le candidat de gauche, arrive de justesse en tête au second tour de l'élection présidentielle. Il bat ainsi le président sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro, qui a lui obtenu 49,17%. C'est le cas le plus serré en deux finalistes de la présidentielle depuis le retour à la démocratie après la dictature militaire.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Comme invité, nous recevons l'expert en initiative locale de sécurité, Sanusa Gansonri. Avec lui, nous parlons de la fête de l'armée qui coïncide avec le recrutement massif de VDP. Il commence ici par nous donner son appréciation sur ce recrutement massif de VDP au sein de l'armée.
Alors, j'ai personnellement une appréciation positive dans la mesure qu'elle a dû être prise, donc cette mesure-là, comme une amélioration de la solution militaire, par des responsables militaires avisés. Et je crois que nous sommes à un niveau. Il faut impérativement avoir plus confiance à nos responsables en charge des questions armées et éviter véritablement les conceptions alarmistes. Donc, j'ai une appréciation positive de la mesure.
Alors, mais est-ce que cela ne semble pas un aveu d'impuissance de l'armée pour faire face à les terroristes?
Ce n'est pas mon avis. Je ne crois pas que ce soit un aveu d'impuissance. C'est plutôt un renforcement de l'action militaire. Parce que, quelque part, les VDP sont un supplétif donc des militaires de l'armée. Donc c'est un groupe plus ou moins homogène. S'il y a une efficacité des VDP, c'est une efficacité militaire. Et toute solution est adaptative. Dès lors que dès la conception, au début de la conception donc, des VDP, se disait pas forcément que c'était une panacée. Il faut, au fur et à mesure qu'on avance, essayer de tirer des leçons pour essayer de renforcer donc ce point important de la lutte antiterroriste. Lorsque vous essayez de voir, par exemple, la guerre en Ukraine, donc, on n'imaginait pas qu'il fallait prendre ce temps. Et au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il y a une certaine complexité, un certain nombre de choses à prendre en compte.
Alors, pour beaucoup, ce projet est très risqué. On pourrait se retrouver avec une non-maîtrise
de ces volontaires pour la défense de la patrie. Êtes-vous d'avis?
Alors, M. Zongolana, vous savez, il n'y a aucune mesure sans risque. Voilà, tout ce qu'on prend comme mesure, il y a toujours des risques. Maintenant, il faut que les différents acteurs fassent un travail d'analyse de ces risques-là, en vue de prévoir un certain nombre de mesures de prévention et de contrôle. C'est extrêmement important. Il faut que tout le monde s'y invite et en mettant naturellement en avant donc cet intérêt majeur pour que chacun puisse véritablement apporter ce qui peut amoindrir ce risque-là. Il n'y a pas d'action sans risque. Il faut y aller, comme on le dit actuellement, on n'a pas le temps. Il faut que des propositions qui permettent de réduire ces risques-là puissent être formulées, que des actions concrètes soient envisagées à tous les niveaux de la vie sociale.
Alors, il y a eu des informations faisant cas de top au sein même de l'armée. Le recrutement de VDP, est-ce que cela ne pourrait pas être une porte ouverte pour que les terroristes s'infiltrent dans le système?
Voilà, personnellement, je crois aux capacités des responsables FDS à mettre en place donc un système efficace de prévention et de gestion donc de ces cas que je qualifierais de maléfiques. Je crois également que les VDP peuvent et doivent être partie prenante de ces solutions-là en développant des mécanismes endogènes à leur niveau, avec l'appui donc des populations pour pouvoir exfiltrer probablement des individus qui se seraient rendus coupables de ce genre de pratiques-là. Donc il faut que on donne la capacité aux VDP de trouver des solutions endogènes à leur sein, avec l'appui de la population, parce que ce n'est pas une chose aisée.
Pensez-vous que les motivations soient à la hauteur du travail attendu des VDP? Il y en a qui critiquent souvent la somme pécuniaire donc à leur donner, d'autres parlent de décoration et tout. Vous, quelle est votre analyse là-dessus?
Alors, bon, de ce qu'on entend régulièrement, la première motivation, c'est véritablement le patriotisme, l'engagement et la volonté de ces acteurs-là. Et ça, ça semble acquis dès lors qu'ils sont déjà dans la dynamique. Et la deuxième motivation est d'ordre matériel. Voilà, ils réclament surtout du matériel de travail et des assistances, parfois en combattant, en appui aérien, etc. Et la troisième motivation qui est d'ordre financier est aussi souhaitée. Et il faut travailler, à mon avis, à améliorer toutes ces trois motivations-là. Parce que même la motivation financière seule ne suffit pas pour booster véritablement l'action de ces VDP.
Alors aujourd'hui donc, on peut dire que ce qui est beaucoup plus attendu, c'est la collaboration de la population dans, en son ensemble. Est-ce que cette collaboration ne s'est pas dégradée au fil du temps?
Oui, on peut noter que parfois les gens sont découragés lorsqu'ils donnent des informations qui ne sont pas suivies d'actions visibles. Mais je pense que de façon globale, il faut qu'on reconsidère la notion de collaboration. Parce que le plus souvent, les gens mettent en tête que c'est donner l'information au FDS, etc. Alors qu'il faut mettre maintenant l'accent sur le concept de coproduction sécuritaire. La coproduction sécuritaire où chacun apporte sa part contributive. Chacun apporte sa part contributive comment? De plusieurs manières, à travers nos comportements, à travers les propos vis-à-vis des acteurs engagés dans la lutte contre les différentes formes de sécurité. Il faut changer de façon d'analyser les situations, il faut accélérer, il faut améliorer plutôt les relations autour de nous, il faut penser bien des autres sans stigmatisation, il faut être solidaire avec les personnes en situation de précarité, éviter un certain nombre de propos. Et tout ça, c'est des contributions à la coproduction de la sécurité, que chacun voit qu'est-ce qu'il apporte, qu'est-ce qu'il peut apporter au niveau de son village, au niveau de son secteur d'existence, et tout ça, ça va permettre véritablement de réduire l'insécurité. Et justement, parlant de ça, il faut qu'on change de paradigme. Voilà, il faut qu'on change de paradigme à tous les niveaux. La façon de penser même, la façon de réfléchir sur les questions sécuritaires, il faut aller jusque-là.
Merci, Samoussa Dansonré.
Merci, je vous en prie.
Voilà, à l'instant, c'est notre invité Sanoussa Gansonri, expert en initiative locale de sécurité. Ici sur FM, donc, cette édition. Et nous terminons avec ce proverbe juif à l'occasion de la fête de Toussaint, une fête catholique. Il faut se mettre en règle un jour avant la mort. Il faut donc se mettre en règle aujourd'hui, puisque nous pouvons mourir demain. Excellente journée.
Radio Omega, l'info en direct.